Au rythme du parc. Une émission dédiée au parc du Vercors et à son actualité. Produite par Erdiwa et financée par le parc naturel régional du Vercors. Au rythme du parc. Comme si vous y étiez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter Erdiwa sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Au rythme du parc. Cette émission qui, je le rappelle, s'intéresse aux initiatives et aux diverses actions qui sont menées sur le parc naturel régional du Vercors. Et pour l'heure, j'ai le plaisir d'être en communication avec Serge Charuot pour parler justement des diverses actions menées par le parc naturel régional du Vercors concernant l'énergie. Serge Charuot, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous vous présenter auprès des auditeurs ?
Donc, je suis Serge Charuot, je suis chargé de mission au parc naturel régional du Vercors sur des missions attenant aux énergies, gestion d'énergie, et également sur une mission transport.
D'accord, donc vous êtes ce que l'on appelle un technicien, vous faites des missions de...
Donc on est chargé de mettre en application les politiques qui sont décidées par les élus du parc, en concertation bien sûr avec le territoire. Nous avons plus un travail d'animation de programme que de suivi technique d'opérations sur lesquelles nous faisons appel à des organismes ou des bureaux d'études spécialisés. Nos missions sont des missions de préparation de programmes, d'animation, plus des missions de développement que des missions techniques.
Pourrait-on avoir justement un petit panel comme ça des missions que vous avez pu effectuer cette année 2012 qui s'est achevée et peut-être un bilan d'ailleurs de ces actions en faveur de l'énergie ?
Oui, disons que c'est difficile de faire un bilan sur une seule année puisque, si vous voulez, les programmes sont généralement des programmes que l'on conduit sur plusieurs années.
Soyons plus longs alors.
Voilà. L'action du parc en matière d'énergie, c'est une, je ne dirais pas qu'elle est aussi vieille que le parc, mais ça a toujours été un domaine de sensibilité important. Quand même, disons, depuis les années 90, un gros travail sur la maîtrise des consommations d'énergie, développement des énergies renouvelables, à la fois dans le domaine public comme dans le domaine privé. Et si vous voulez, je vous donne quelques exemples comme ça pour donner un peu des dates en même temps. Dans les années 90, un programme sur l'électrification des sites isolés à l'aide d'équipements photovoltaïques, ça représentait à cette époque-là, si vous voulez, ça ciblait plutôt des équipements de type d'hébergerie, d'alpage, des fermes ou des auberges isolées qui sont maintenant en autonomie énergétique dans ce domaine de production d'énergie, d'électricité, pardon. Voilà, et puis on a très 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 vite travaillé sur le bois énergie avec le développement d'une filière bois énergie, le développement d'équipements énergie renouvelable auprès des collectivités comme auprès du privé. On faisait un bilan l'année dernière, 190 à 200 équipements énergie renouvelable bois énergie sur l'ensemble du territoire du parc, dont 70-80 sur des équipements publics, donc chaudières, réseaux de chaleur, etc. Voilà.
Peut-on avoir justement une précision un petit peu de cette filtration qu'il y a entre des actions portées sur le domaine privé, on va dire, et puis ce domaine public.
Si vous voulez, à partir du moment où on s'engage dans un projet, par exemple sur le bois énergie, ce qui a motivé le bois énergie, c'est bien sûr sa teneur environnementale, mais aussi c'est sa valeur économique. Notre travail a été de motiver par de l'animation, par également de l'aide aux études de faisabilité, à la fois des collectivités ou des gros consommateurs. La première étape, c'est de réaliser des audits. Le parc a par exemple financé et fait réaliser une soixantaine d'audits énergétiques globales dans les communes du parc, mais aussi auprès de grands consommateurs, de gros consommateurs, comme par exemple les centres de vacances ou de gros hôtels, vous voyez, dans le domaine touristique. Et de là, on a pu effectivement regarder les options qui pouvaient être prises en matière à la fois de limiter les consommations par des volets d'isolation ou autres ou d'économie d'énergie en général, et puis de substitution de la part de production d'énergie par des énergies qu'on appellerait conventionnelles, gaz ou fioul, voire par une modernisation d'énergie bois avec ces réalisations de chaufferies bois automatiques. Et ça peut être des chaudières individuelles comme ça peut être des petites chaudières collectives avec des réseaux, un réseau de chaleur comme Vassieux par exemple.
Pour qu'on comprenne bien l'action du parc et bien sûr la vôtre, ces audits, c'est-à-dire que c'est le parc qui cible à un moment donné de tant de communes sur telle ou telle infrastructure, ou est-ce que c'est des demandes qui peuvent vous venir ?
C'est comme tout projet de développement, je veux dire, il y a une phase préalable d'information, d'animation. La politique du parc, c'est d'aller vers une meilleure gestion de l'énergie. Mon action est principale, je dirais, et je qualifierais d'essentiel. Donc, dans toute animation, c'est d'informer, c'est de sensibiliser, etc. Et puis après, on s'aperçoit effectivement de l'importance de la chose. Et par exemple, le programme d'audit énergétique a été décidé. Pas audit par audit, parce que ça serait trop compliqué de mobiliser les financements pour le faire. Donc, on a établi un programme global sur une soixantaine d'audits, je dirais presque ciblés, parce que il y avait déjà l'engagement des communes de réaliser ces opérations. Quoi.
Donc, en fait, voilà, ça va vraiment dans une continuité. Et ces communes et ces particuliers même qui donc habitent le parc ont bien conscience, en fait, de l'environnement global du parc et donc accepte aussi que vous soyez dans des démarches d'animation constantes pour leur proposer des nouvelles choses.
Bah oui, vous résumez bien.
Pourrions-nous avoir aussi peut-être encore un autre exemple de grands projets qu'il y a eu ? On a entendu donc le photovoltaïque, le bois énergie.
Plus récemment, là, on s'est dirigé... ça, si vous voulez, ce sont des programmes qui sont en même temps... on a tout... un travail d'animation permanent auprès des particuliers également. Mais là, si vous voulez, le parc agit pas en direct. Il fait en sorte de mobiliser des moyens pour que des organismes comme l'ADI le 26 sur la Drôme, en ce qui concerne la partie Drôme, puissent intervenir pour faire des permanences décentralisées, des permanences en accompagnement des architectes conseils CAUE, etc., sur le territoire. Donc là, on mobilise les moyens pour que ces organismes-là soient au plus près possible des demandeurs. Bon, je sais que dans le Diois, par exemple, c'est Biovallée qui réalise cette opération-là. Pour le reste du parc, c'est le parc qui avait pris ça en charge. On fait en sorte, effectivement, que l'ensemble du territoire soit couvert par ces services. Donc ça, c'est un point. Il y a d'autres points. On est parti depuis maintenant 3-4 ans, non, peut-être pas 3 ans, disons, sur une autre démarche du développement des énergies, et avec un programme expérimental pour le moment de développement de centrales villageoises photovoltaïques. Donc ça, c'est un volet complètement expérimental, un volet recherche, pour essayer de mobiliser des citoyens, des habitants, pour une prise en compte par eux-mêmes d'une production et d'une gestion d'équipements producteurs d'énergie. Alors là, on travaille sur le photovoltaïque, mais ça pourrait être sur d'autres sources d'énergie, l'éolien ou la microhydraulique, etc. Le principe étant essentiel, c'est créer des sociétés, on pourrait dire des structures locales de gestion et d'investissement pour une production décentralisée d'énergie.
Ça, justement, au moment même, là, vous reparlez encore une fois du photovoltaïque, au moment même où on sait que les prix ont un peu chuté, que les aides ont disparu également, là, l'objectif, c'est que la population prenne conscience qu'elle a juste à devenir indépendante, même si ça lui coûte un peu au début. Ou est-ce que, justement, vous arrivez à mobiliser les fonds nécessaires pour que ça se fasse ?
L'objectif et la motivation n'est pas uniquement financier, c'est pas... On ne développe pas un projet comme celui-ci pour dire vous allez faire du fric, de l'argent, excusez-moi, sur un équipement qu'on pourrait imaginer pour un équipement individuel, etc. C'est effectivement faire prendre conscience que à l'avenir, L'énergie décentralisée, c'est une sécurité de production d'énergie, en particulier sur l'électricité, puisque bon, les sites comme les sites en milieu rural, comme le Diois, la Réseau du Vercors, sont assez fragilisés sur effectivement l'alimentation en réseau électrique. Et puis, par définition, toute énergie produite localement et consommée localement, c'est quand même un objectif qu'il faut avoir et qu'il faudra développer.
Parfois, on peut simplement parler de retour sur investissement, même s'il n'est pas question de faire de l'argent. Hein.
Ah ben c'est effectivement le nerf de la guerre aussi. Hein. Je veux dire, le retour sur investissement, il se calcule sur un moyen terme. Effectivement, dans cette perspective-là, et si on considère effectivement la partie photovoltaïque, on pourrait dire qu'on n'est pas dans une configuration économique optimale. Elle est beaucoup moins favorable que ce que l'on avait au démarrage de l'opération. Mais ce qui n'empêche quand même que on poursuit avec des groupes d'habitants. Donc là, il y a une opération qui se passe dans la Germaine, à Plan de Baie. Il y en a une autre sur Villard-de-Lans, et autres exactement. Une troisième sur le Trièves. Je dirais que des groupes d'habitants travaillent autour de ce projet. On arrive bon par un certain nombre de comment dirais-je de caractéristiques à établir un projet rentable entre guillemets, hein, mais le tout étant de savoir quand est-ce que la rentabilité est à calculer. Si elle est immédiate, c'est certainement pas là, mais sur du moyen terme, elle est rentable. Voilà. Et donc ce sont des opérations que l'on poursuit. Il faut dire que sur ce genre d'opération, le parc fait partie d'une action qui est donc expérimentée sur 8 territoires en Rhône-Alpes, comment dirais-je, qui est animée par Rhône-Alpes Énergie et Environnement. L'idée première est née effectivement en Germane avec un groupe d'habitants sur la région de Plan de Baie, Beaufort, Gigors.
Groupe d'habitants, enfin, en la parole de Madame le maire, il me semble, de Gigors, voilà, qui portait un petit peu le projet, que nous avions eu le plaisir de rencontrer, et qui exprimait un petit peu ses difficultés, qui étaient souvent des difficultés d'ordre technique, bloquées par le réseau ERDF. Moi, ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est à la fois quel est le pouvoir ou le poids qu'a le parc sur justement cet aspect technique, purement technique, et puis évidemment sur la levée de fonds. Là, on le comprend bien, encore une fois, vous êtes à contre-courant de la politique actuelle qui est en train de...
Ah non, pas du tout à contre-courant. Vous êtes avant-gardiste par rapport à ce qui va se passer. Effectivement, le photovoltaïque n'est plus mis en avant aujourd'hui comme pour ceux qui le regardent avec un intérêt financier et une rentabilité immédiate. Mais bon... On anticipe une situation, un contexte. Demain, l'électricité va encore augmenter. Demain, le prix de pose des panneaux, le prix des panneaux diminuera parce qu'on est sur ce phénomène. Hein. Je veux dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, il y a 5 ans, on était pour un équipement photovoltaïque, on tournait à 6 euros le watt crête installé. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 2 euros, 3 euros le watt crête installé. Donc, vous voyez, on est dans une configuration qui n'est pas du tout la même qu'il y a 4-5 ans. Mais moi, je suis persuadé qu'on est en train d'anticiper un nouveau mouvement sur, effectivement, des unités de production décentralisées. Et là, dans ce projet-là, il n'y a pas que l'élément production qui est intéressant, c'est de voir aussi que cette production... se fait sur avec des critères que les habitants ont souhaité, hein. C'est-à-dire qu'on investit d'abord des bâtiments avant de créer des espaces nouveaux de production. On investit du bâtiment, c'est-à-dire des zones déjà aménagées, et on a une forme participative qui est la base même du projet. Voilà, le contexte, il est celui-ci. C'est quelque chose qui n'est pas facile à monter, c'est certain, parce que là, on s'est aperçu d'un certain nombre de verrous techniques, de verrous administratifs. Et là, pour répondre à votre question, la porte du parc, si vous voulez, là-dedans, c'est de mobiliser et les moyens et les savoir-faire pour justement casser ces verrous, aller au-delà de ces difficultés.
Très bien, bah voilà, c'est ce que je voulais que nous entendions et que nous comprenions. Hein. Je ne suis pas absolument contre le photovoltaïque qui ne rapporte pas d'argent, bien au contraire. Voilà.
Mais il rapportera, c'est pas philanthropique comme.
Oui, non plus.
C'est vraiment une démarche économique, mais économique dans le sens économie durable.
Et dans le sens économie d'argent et pas forcément gain, c'est plutôt ne pas en perdre.
Ça aussi, voilà.
Eh bien, je pense qu'on va terminer avec ça, parce que l'entretien doit bientôt se terminer. Surtout que vous terminiez sur l'avenir, ce qui est en train de se produire un peu sur le parc. Y aurait-il, en quelques mots, une dernière chose qui vous paraît important que les auditeurs connaissent ?
Au niveau, on n'est pas sur l'économie énergétique en particulier, mais ça y touche quand même. C'est aussi toute la réflexion que le territoire du parc engage sur... une autre forme de gestion de l'éclairage public. Là, on travaille ça en liaison avec Biovallée. Ça aussi, c'est un domaine où il y a une nécessité pour les habitants d'accepter un certain nombre de changements. Je pense qu'il faut être raisonnable aussi de ce côté-là. Donc, c'est un domaine où on s'aperçoit effectivement que éclairer comme on faisait auparavant, c'est quelque chose qu'il faut peut-être réfléchir, parce que on n'a plus les mêmes besoins, il n'y a plus la même qualité, et il y a une autre qualité d'éclairage maintenant avec des systèmes plus modernes. Et puis il y a une dimension environnementale importante à tenir compte, et ça c'est aussi un des piliers du parc, que d'associer l'environnement à l'ensemble des projets qu'il conduit. Autre domaine qui nous paraît aussi très important, sur lequel on a lancé un chantier, c'est le domaine du transport et des déplacements, et la substitution de la voiture individuelle aux autres aux moyens de déplacement, pour répondre aux besoins actuellement de déplacement. Bon, là, je travaille par exemple avec la commune de Die et la communauté de communes sur une réflexion autour d'une base d'autopartage sur le Diois. Voilà, ce sont des domaines d'investigation qui pourront certainement déboucher sur de nouveaux projets.
Excusez-moi de le rappeler, mais on est bien en train de parler d'économie d'énergie dans les deux cas que vous avez cités, à la fois l'éclairage public, mais aussi la voiture.
C'est un lien effectif.
Oui.
C'est économie d'énergie, c'est réduction des gaz à effet de serre, c'est quand même notre cheval de bataille.
Et puis donc on va tout doucement vers l'arrêt des centrales, ce qui à mon avis ne peut que réjouir le parc.
L'arrêt des centrales, lesquelles ?
Nucléaires.
Ah voilà, parce que les centrales hydrauliques sont aussi existantes.
Oui, c'est vrai.
Non, mais il faut... voilà, ce travail est un travail effectivement à long terme. On ne s'inscrit pas dans l'immédiateté.
Serge Charuot, donc vous êtes chargé de mission justement sur cette gestion de l'énergie au parc naturel régional du Vercors. Merci d'avoir participé à cette émission.
Merci, au plaisir, au revoir.
Au revoir.